Patrick Derry. Il n'a pas peur du succès des autres. Il s'inspire du meilleur pour créer ce qui se fait de mieux ici. Savoir et comprendre, Patrick Derry.
Alors, on sait qu'au cours des derniers jours, il y a eu des manœuvres militaires de la part de la Chine au large de l'île de Taïwan. Ils ont fait survoler des avions au-dessus de la zone de défense aérienne de Taïwan. Et évidemment, c'est suite à la visite la semaine dernière de la Nancy Pelosi, qui est la présidente de la Chambre des représentants. Et là, Taïwan a organisé aussi des exercices militaires, mais avec des munitions réel et accuse la Chine de préparer une invasion. On en discute avec Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandurand. Salut Guillaume.
Bonjour Patrick.
Écoute, ça va bien? Non, mais est-ce que c'est de la posture puis de l'enflure, ou c'est quelque chose qui commence à ressembler à une possibilité d'escalade réelle puis que la Chine va vouloir avoir le dernier mot?
Tous les scénarios sont possibles et envisageables. Le plus probable, c'est qu'on est dans les démonstrations. Évidemment, imaginons que Pelosi soit jamais allée. La Chine, son objectif premier, c'est d'intégrer Taïwan dans la famille chinoise, veut pas. Et Taïwan, son objectif premier, surtout depuis que on voit ce qui s'est passé à Hong Kong, ben, c'est réintégrer la Chine tout en restant pseudo-indépendant ou à tout le moins démocratique, ça semble de moins en moins évident. Fait qu'on est sur ce qu'on appelle une trajectoire de collision, là. Maintenant, plusieurs disent que si la Chine voulait procéder, c'est maintenant qu'elle devrait le faire, parce que les lendemains pour la Chine sont peut-être pas si positifs que ça, mais ce serait peut-être une erreur, parce que la chose dangereuse ici, c'est Joe Biden qui le disait comme ça. Il y a une chose de pire qu'une guerre qui éclate parce qu'on l'a planifiée. C'est une guerre qui éclate parce qu'on ne l'a pas planifiée, parce qu'il y a eu un accident, un débordement. Alors, à force de faire des exercices militaires dans un endroit grand comme un mouchoir à poche, qui est le détroit de Taïwan, avec des munitions réelles, imaginons s'il y avait un accident. Puis là, c'est le festival de la réplique obligée. Et là, ce serait l'embrasement. Alors, il faut là-dessus trouver une manière de laisser tout le monde laisser sortir un peu de vapeur. Les exercices de Taïwan, qui sont quand même armés par les États-Unis, c'est pas rien. C'est quelque chose qui leur permet eux-mêmes de faire leur propre démonstration. Mais toute manifestation militaire dans le détroit de Taïwan est toujours quelque chose qui va nous préoccuper.
Écoute, entre gens raisonnables, ça va être facile de s'entendre. On va retourner aux États-Unis. Le FBI débarqué chez Donald Trump. Ça, là on est surpris puis on n'est pas surpris, mais en même temps, écoute, c'est rendu loin, là. Donald Trump nous a habitués à repousser les limites, mais là, on est rendu dans quelque chose qui, c'est un scénario de film, cette affaire-là.
Oui, puis pas nécessairement un documentaire classique. On est plus dans le tragicomique, là. Mais effectivement, quand t'as dans un titre de journal, le FBI débarque un ancien président, je dirais, clairement, on doit être dans une république de bananes. Non, là, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est pas rien. Alors, remettons ça en contexte, là, ceux qui pensent qu'il allait voir Donald Trump sortir menottes au poignet, oubliez ça, là, c'est pas du tout ça dont il est question. Et ça n'a rien à voir, supposément, avec le comité sur le 6 janvier. C'est une vieille affaire, c'est-à-dire que quand Donald Trump était à la Maison-Blanche, quand ça a été le temps de faire ses boîtes, il est parti avec un paquet de documents. Et il n'y a rien qui t'appartient comme président. Quand tu es président, c'est l'administration, c'est l'institution. Alors, tous tes papiers, tes notes, tes messages aux collaborateurs, tout ça doit aller aux archives nationales. Et c'est un peu ça que le FBI est allé chercher. Voici où ça devient très particulier. Il y a deux méthodes judiciaires d'avoir des papiers que vous avez en votre possession et que la justice veut avoir. La première, c'est un subpénat, un ordre de la cour. Vous ouvrez votre courrier, vous avez un huissier qui vous dit « Veuillez, Patrick, produire les documents suivants puis envoyer ça à la cour en date de temps. » Sauf que là, je vous le dis, si je pense que en vous sonnant l'alarme, vous allez détruire les documents, ben là, je vais pas vous envoyer une notice. Je vais aller voir un juge. Je vais lui dire « Je pense que les documents sont chez Trump. » Et il faut pas lui dire, il faut arriver là par surprise. Alors là, c'est un juge qui a donné la permission au FBI de débarquer sans être annoncé et de faire des fouilles à Mar-a-Lago, qui est la résidence de Trump en Floride. Trump n'était pas en Floride à ce moment-là, il était à New York. Maintenant, est-ce que tout ça vaut la peine pour 15 petites boîtes de documents dans lesquelles il y aurait ce que Trump avait mangé? Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans ces documents-là? Soit c'est que sur le principe, les archives nationales veulent leurs documents et ils sont en droit de les avoir. Soit on pense qu'il y a quelque chose dans ces documents-là qui seront utiles pour pousser une enquête dont on ne sait rien jusqu'à maintenant sur Trump. Et là, le problème, c'est que politiquement, c'est du Red Bull trempé dans les stéroïdes pour la base complotiste pro-Trump.
Ouais.
Ces gens-là sont sûrs qu'ils vivent dans un état policier et que la descente du FBI, c'est rien de moins qu'une commande directe des démocrates et de Joe Biden.
Ouais.
Et à jouer le rôle du persécuté du système, c'est le rôle oscarisé de Donald Trump. Et il va utiliser ça. Et d'ailleurs, si j'ai des gens en doute à savoir si Donald Trump est lâché par le Parti républicain, à peu près tout ce qu'il y a de Parti républicain organisé est sorti pour dire à quel point c'était terrible et scandaleux ce qui arrivait à Donald Trump et qui jouent eux-mêmes leur part d'acteurs de soutien dans ces théories du complot. Là. Alors, il faut que le FBI et la justice s'expliquent. Mais là, ici, la ligne classique de « nous ne commentons pas sur des enquêtes en cours », c'est bien, mais ça passe peut-être pas le test de la politique réelle. Là. Et là, il y en a qui rêvent, Patrick, de voir Trump mis en accusation, condamné. Et là, il ne pourrait pas être candidat à sa succession parce que la loi dit que si tu pars avec des morceaux de documents et t'es reconnu coupable, t'es inéligible au fédéral. Ben, vous pouvez continuer à espérer, mais les conditions d'éligibilité pour la présidence sont dans la Constitution et ça changera pas. Donc, à date, rien n'empêcherait Trump de se porter candidat à nouveau.
Tu dis que certains gens au Parti républicain vivent dans un monde policier. Moi, j'ai envie de te dire qu'ils vivent dans un monde parallèle. Je sais pas si tu as vu là, dans un des articles qui parlait de cette histoire-là, il était question aussi d'un livre qui allait sortir bientôt où quelqu'un qui était dans l'entourage de M. Trump pendant sa présidence, ils ont passé un certain temps à débloquer des toilettes parce que, justement, elles étaient engorgées de documents. Donc... il y a manifestement des traces de quelque chose qui existe, qu'on a voulu faire disparaître. Puis bon, écoute, c'est peut-être ça qu'on va aller chercher. Avant de se quitter, sur le conflit en Ukraine, on a fait longtemps qu'on a fait le bilan sur les pertes russes et ça commence à monter quand même pas mal.
Les dernières estimations américaines, Patrick, sont entre 70 000 et 80 000. Ça, c'est des morts ou des blessés du côté russe. Et évidemment, le chiffre en soi, là, imaginez, c'est 70 000, 80 000 familles. Mais imaginez, juste pour mettre ça en parallèle, c'est 8 fois plus que les Russes ont eu comme perte pendant 10 ans de guerre en Afghanistan. Et pensez à la guerre américaine au Vietnam. Ça a duré 20 ans, il y a eu 54 000 morts. Alors, on voit que l'on est dans des proportions très, très, très élevées. Et ça a d'énormes conséquences pour les Russes qui n'ont toujours pas de mobilisation générale. Alors, pendant ce temps-là, ben là, Joe Biden s'apprête à annoncer. D'abord, il vient de confirmer l'appui des États-Unis à la candidature de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Mais en même temps, bientôt, là, ils vont confirmer $1 milliard d'aide militaire de plus. Alors là-dessus, si Vladimir Poutine est décidé à y aller, peu importe les circonstances, qu'on voit, c'est que du côté américain, on n'a pas l'intention de baisser la tête non plus. Là.
Écoute, il va commencer à avoir de la pression du côté de M. Poutine. Hein? 70 à 80 000 familles potentiellement touchées par un conflit qui continue à s'enliser. Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandurand. On poursuit cette conversation demain.
Au plaisir.
Au revoir.